Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show sur RMC jusqu'à 18h. Alors vous le savez, on passe les meilleurs moments de la saison. Et c'est intéressant d'écouter les débats avec du recul. Par exemple, à 16h30, un peu avant, on va se poser la question à Big Bay, est-ce le bon choix au moment où De Zerbi est parti.
Ouais.
Voilà. Et là, on savait pas ce qu'allait se passer derrière.
C'est un débat qui date du 19 février.
Voilà.
Venait d'arriver. C'est toujours savoureux de réécouter ces débats.
Alors, avant cela, Thomas Ramos, Souria Bonali aussi, on avait passé 20 minutes d'excellente facture avec la championne de patinage artistique.
Elle sortait une bande dessinée qui est super d'ailleurs, Le Feu sur la Glace.
Et puis, bien sûr, Journal Moyen, deuxième édition, et Kikadi.
Journal Moyen avec des belles casseroles. C'était un journal moyen d'un lundi, donc il y a toujours des belles saucisses avec du Denis Charvet bien présent, solide sur ses appuis. Et le Kikadi, oui, un Kikadi où j'avais demandé à Vincent, soyez bien là parce qu'il va se passer des choses dans le Kikadi. J'avais demandé à Vincent, tu as 20 secondes, Vincent, pour me donner le nom de l'hymne de Liverpool qu'on connaît bien.
Il a réussi, non?
Non, il n'a pas réussi.
Et puis un petit cadeau bonus aujourd'hui.
Oui.
Juste avant le Kikadi, on va rediffuser une séquence de 2016 entre Bernard Laporte et Marie-Zévange GP. Moi, je vous dis, j'écoute ça, je pleure de rire. Moi, je vous dis que ça. Rendez-vous à 17h40.
Le rugby.
Thomas Ramos est-il le vrai patron des Bleus?
Thomas Ramos nous habitue tellement à l'exceptionnel dans l'exercice du tir au but.
Un moment exceptionnel du rugby français.
Que l'on a tendance à banaliser son talent.
En fait, nous, c'est comme un fauve qu'on expose à toutes les représentations au cirque.
Sur la gauche des poteaux, Ramos est phénoménal.
Gagné ce champ des choses.
Il est à 100% de réussite.
L'expérience, ça sert un petit peu. Oui, quoi.
Prise d'élan, regard.
Nous, c'était le terrain, les lions, c'est le cirque.
Course progressive et coordination.
L'action, le pire ennemi de la pensée, voilà.
C'est grâce à tout cela que Ramos peut lutter avec une telle réussite.
S'il tape un petit coup de pied à celui, il doit le taper sur son pied droit, pas de l'autre côté.
Et ce, peu importe l'endroit du coup de pied.
Imaginez que ce lion domestique où vous lâchez dans la jungle, voilà, est-ce qu'il survit? Je suis pas sûr, quoi.
RMC, ça c'est Super Moscato Show, tournoi destination, acte 2.
Aucune certitude.
On n'ira pas quand même à côté pour voir quand même. Tu lâches un lion dans la chaîne. Mais non, mais c'est vrai. Bon, on l'a dit 10 fois. Hein.
Mmh. Ah ouais, parce qu'il est habitué.
C'est dans le salon, le lion.
Le lion. Alors que le lion, si tu le mets dans l'eau, c'est pas lui le roi.
C'est chiant. Par contre, pour les lions domestiques, c'est la litière. Hein. On l'a changé souvent.
Ah ouais.
La litière.
Ça, c'est sûr. T'imagines la litière.
Bon,
allez, Thomas Ramos.
Il a pas envie, Pierrot.
Si, mais c'est moi, je suis toujours fasciné par ces interviews de Denis. Il n'y a que Denis qui est capable de ça.
Parce
peut-être Jean-Pierre Yves, mais moins drôle.
Mais Denis, c'est le vrai personnage.
Jean-Pierre, qui pense c'est Lyon de Chutis Culte.
C'est un vrai personnage.
Pierrot, tu vas gêner, Pierrot. Parce que la signature en bas, il met pas Jean-Pierre Yves, il met 40 000.
Je remercie Christelle Moscato qui m'a fait faire cette interview.
Eh bien, voilà.
C'est la légende qui s'est écrite.
C'est ta culture, quand même.
Vincent, c'est un grand artiste, Jean-Pierre Yves. C'est un grand sculpteur.
Oh.
Non, mais je pose la question.
Sur le marché de l'art. Reconnu par Denis,
c'est vrai, il a fait
quand même des.
Non, c'est un grand artiste.
Des trucs avec des
joueurs. Aussi à au Stade de France.
C'est mieux que Stark.
La seule sculpture qu'il y a au Stade de France, devant le Stade de France, le parvis du Stade de France, c'est Jean-Pierre.
Mais ça pas gage de grand artiste.
C'est un truc, tu peux l'avoir dans ton bureau, pof, tu mets le manteau dessus, c'est un porte-manteau, tu mets le chapeau.
C'est un coup d'élite.
Pendant le tournoi, on remet un trophée Jean-Pierre Yves.
C'est tellement lourd, il arrive avec il arrive avec 4 aspalettes, il recule parce que ça fait le tournoi.
Thomas Ramos, donc, qui a marqué les esprits contre l'Irlande. Laurent Labitte, ici même, on a fait le meilleur joueur du monde la semaine dernière dans le Moscato Show. Sans aller jusque-là, est-il le vrai patron des Bleus devant même Antoine Dupont? C'est la question qu'on vous pose et à laquelle Vincent va répondre. Est-il le vrai capitaine des Bleus? Vincent, règle le problème. Wilfried Templier est avec nous. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Comment est-il considéré au sein du 15 de France, Thomas Ramos?
En quelques années, c'est devenu le boss des Bleus, lui qui n'était pas forcément vu de manière légitime lors du premier mandat de Fabien Galthié. Derrière les Boutier, puis Dulin, puis Jaminet. D'ailleurs, la semaine dernière, alors qu'il était questionné sur l'éviction de son pote Damien Penaud, Thomas Ramos n'a pas hésité à prendre son cas en exemple.
Vous savez, moi j'ai passé 3 ans à pas jouer, donc forcément, ne pas être pris ou ne pas être en tribune, je sais ce que ça fait. Donc forcément, déjà, ça fait mal au cœur pour Dams de ne pas le savoir ici.
Voilà, il est capable de parler tout librement en conférence de presse, car Thomas Ramos a pris le pouvoir sur le poste d'arrière en bleu en novembre 2022. Petit à petit, il s'est installé en patron dans le groupe, buteur à 85% de réussite, capable de coups de génie comme cette passe de footballeur la semaine dernière face à l'Irlande pour l'essai de Bielbiaré, mais aussi guide pour les autres, comme l'explique son jeune coéquipier Théo Atisogbe.
C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui décide très bien sur le terrain. J'ai l'impression qu'il lit et qu'il voit beaucoup d'espace avant la majorité des autres joueurs sur le terrain. Donc c'est vraiment une force pour nous, parce que souvent quand il appelle un ballon c'est souvent le bon espace et il fait souvent le bon choix et il bonifie souvent les ballons qu'il touche. Après, il sait dire les choses, je pense que vous le savez, il a un très haut caractère, mais avant tout c'est quelqu'un qui met dans le confort et qui par sa communication aide un peu tout le monde.
Alors, meilleur joueur du monde Thomas Ramos, comme l'a dit Laurent Labitte, ancien coach des Bleus sur RMC, c'est en tout cas venu aux oreilles de son successeur Patrick Arletta, et ça a amené le débat à Marcoussi.
Ouais, je sais, j'ai discuté avec Thomas ce matin. Je sais pas. Moi, j'ai cité 2-3 noms de plus, mais on va en parler tout à l'heure là. Et je lui ai demandé de réfléchir si c'était vraiment lui ou. J'ai fait 2-3 propositions d'autres. Il fait partie des meilleurs, Thomas. Donc voilà, moi, je suis pas dans le meilleur. Il est meilleur que Marx au talonnage, non. Voilà, et j'adore Thomas. Donc, voilà, il y a tout un truc. Il nous est très précieux et c'est un très très grand joueur. Voilà, très très grand joueur.
Un très grand joueur, tout état de cause, le meilleur réalisateur de l'histoire du 15 de France qui vient de passer la barre des 500 points en bleu.
Voilà, le résumé de Arletta.
Il a tout dit.
Est-ce qu'il est meilleur, talonneur?
Oui, voilà.
Il est bon, Arletta. Hein, très bon.
Ça va pas nous empêcher de débattre. Alors, est-ce que c'est le vrai?
Il a la clope, non? La légère. Hein.
Est-ce que c'est le vrai patron des bleus pour toi, Vincent?
Non, c'est un patron. Il est patron de sa ligne, il est patron de sa. Il a une personnalité, bien sûr, il influe énormément sur le groupe. C'est quelqu'un qu'on écoute, tu vois, je veux te dire. Quand il passe, d'ailleurs, il y a un respect pour lui, parce que c'est un taulier de l'équipe de France. Il est patron, bien sûr qu'il est patron, au même titre qu'il y a deux patrons, c'est Dupont, parce que le poste, d'abord par lui-même, est prédestiné à être quand même un poste de direction. C'est soit lui, soit le 9, soit le 10. En l'occurrence, c'est Dupont, et lui, c'est le boss. Alors, capitaine, vice-capitaine, ce que tu veux, mais c'est les deux gros responsables. Je veux dire, Galtier, quand il parle de rugby, eh ben, il parle davantage, je pense, à lui qu'à Méafou, quoi. Voilà. Il pense, malgré que je mets à fou sur un grand joueur. Mais ce que je veux te dire, il s'appuie sur la direction du jeu, sur les mecs comme ça. Arletta, c'est un profond respect. Quand il te dit, bien entendu, que notre sport, tu ne peux pas dire le meilleur joueur. Peut-être le meilleur, peut-être à son poste. Ça, on peut en parler. Peut-être à son poste. Mais pas le meilleur joueur du monde, ça veut rien dire. Okay, tu ne peux pas avoir de ballon d'or.
Toi, là, c'est pas l'influence sur le jeu, ou plutôt sur la dynamique, oui, sur le mental énormément. Des bleus, est-ce qu'elle est plus importante que celle de Dupont?
Non, parce que le poste n'est pas plus important. Neuf, tout passe par le neuf.
Non, mais d'accord, mais il n'y a pas que le jeu, il y a aussi la dimension.
La dimension
psychologique.
Eh ben alors, lui, il a une dimension psychologique, je vais te dire, supérieure à celle de Dupont. Dupont, il influe énormément par son jeu.
Et lui, c'est par son jeu. La parole,
et lui, par son placement.
C'est le vrai capitaine.
C'est le goal. Lui, il est derrière, c'est comme un goal. Il influe. Non, c'est pas le vrai capitaine. T'arrêtes maintenant. C'est pas le vrai capitaine, parce qu'un vrai capitaine, il est devant. Les capitaines, c'est quoi? C'est le talonneur, c'est le 9, c'est le 8. Voilà, les têtes pensantes.
Serge Blanco était capitaine à l'arrière.
Oui, mais il servait pas à grand chose, Serge, quand il était capitaine.
Il était nul.
Il est content, Serge.
C'était pas bon, c'est incroyable la phrase.
C'est fou. Parce que, okay. D'ailleurs, il voulait pas, lui, depuis tout petit, Serge Blanco, il voulait pas être capitaine, il voulait être maire de Biarritz. Voilà. Il dit, moi, je serai maire de Biarritz quand je serai grave. Bon, là, il a attendu un peu, il est vraiment grave.
Il va l'être. Denis Charvet.
Écoute, je pense qu'il y a une équipe de France avec ou sans Ramos. Et il transforme cette équipe, il transforme le collectif. On le voit à Toulouse d'ailleurs, à Toulouse quand il joue ou qu'il joue pas, mais c'est pas la même équipe. Il est à un niveau aujourd'hui qui est exceptionnel. Il avait été remis en question en Irlande, souviens-toi, il y a 3 ans, il me semble, que son match, on l'avait perdu en Irlande, où là, Fabien Galtier doutait de ses capacités, et il était remis en question, et après il a rebondi, et puis là, il est rentré, il est plus jamais sorti. Donc moi, ce qui me fascine avec ce joueur, c'est qu'en fait, il rend simple toutes les situations. C'est-à-dire que t'as l'impression que tout ce qu'il fait, tu peux le faire. Et en fait, c'est très dur, quoi. Au très haut niveau, à la vitesse où ça va, il voit tout avant les autres. Tissogbé le dit très justement, il voit toutes les situations avant les autres. C'est quelqu'un qui, au pied, est incroyable. Il trouve des 50-22 très souvent dans des boîtes, comme ça on dit la boîte. C'est un joueur hors norme. C'est vrai que c'est difficile de dire que c'est le meilleur joueur du monde.
Il y a
parce
des mecs
que
qui sont bons partout.
De comparer les joueurs, quand on dit Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, oui et non.
À son poste, c'est le meilleur.
À son poste, mais j'aime pas trop les comparaisons.
Thomas Soulière.
Est-ce qu'il est meilleur que Marc
Soulière? C'est lui qui a plus d'influence sur son équipe. Non, mais voilà, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il a une influence totale sur les équipes.
Certaines.
Dans lesquelles il joue. La preuve, c'est que quand Ramos joue à l'ouverture, ça n'empêche pas d'être champion de France à l'ouverture, d'être champion d'Europe à l'ouverture. C'est ce qui fait les grands joueurs.
Il voulait le mettre en troisième ligne à la
fin. Non, mais il peut. C'est rare qu'un arrière comme ça puisse jouer à l'ouverture avec une telle aisance, une telle facilité. C'est tout simplement un joueur qui pue le rugby.
C'est l'école Lucien Mias. Parce que pourquoi Lucien Mias?
Et puis après, bon, quand on parle de Paco.
16h17, terminé.
Fini d'abord Denis Juni. C'est vrai, un vrai leader de jeu parce qu'effectivement, il a un wawa terrible. Et que quelque part il a l'âme d'un entraîneur tout simplement, et que c'est pour ça que il voit les stratégies, il voit le jeu avant les autres et qu'il peut commander de derrière.
Et alors pourquoi Lucien Mias?
Mazamé.
Le docteur de Mazamé.
Lucien qui a fait ses études pendant qu'il jouait au rugby, qui est devenu docteur après.
Écoute, figure-toi, le héros régale ton public en tout cas avec ses sorties sur l'équipe de France. Il y a Zaza Napoli qui nous envoie un message. J'ai appelé les secours suite à cette noyade sur Méafou. Courage Vincent, ils arrivent.
Tiens bon Vavin.
Stephen, est-ce que c'est le vrai patron des Bleus?
Non, parce que dans cette émission, quand on fait les tu préfères, si tu demandes à Fabien Galthié, tu préfères te passer d'Antoine Dupont ou de Thomas Ramos, moi je connais la réponse.
Il préférera se passer de
Ramos. On l'a vu sur la tournée de novembre que malgré la présence de Thomas Ramos, aussi exceptionnel qu'il soit, ça suffit pas pour faire gagner l'équipe de France. Donc et puis en fait ces histoires de, j'ai l'impression qu'on a eu tous les meilleurs joueurs du monde. Antoine Dupont c'était le meilleur joueur du monde. Romain Tamac avant qu'il se blesse en 2023 à son poste c'était le meilleur joueur du monde. Thomas Ramos c'est le meilleur joueur du monde.
Mais on n'est jamais champion du monde.
On n'a jamais gagné, on n'est jamais champion du monde. Donc moi c'est bien, moi ces mecs-là j'ai envie que ça soit les meilleurs joueurs du monde en 2027 en Australie et qu'ils nous fassent gagner. Là des tournois à droite à gauche c'est bien, mais j'ai envie que ces mecs-là jouent à un moment donné à leur niveau et qu'on soit champion du monde. Thomas Ramos si vous voulez c'est exceptionnel. Antoine Dupont c'est exceptionnel. Ton ami Marchand, c'est exceptionnel, mais monsieur, ramenez-nous un titre de champion du monde et ça sera exceptionnel.
Oui, mais là, c'est un sport collectif, Stephen.
Mais bon,
on parle pas comme un livre.
Justement, ces débats-là, c'est des débats pas individuels. Si lui, c'est le meilleur du monde, si c'est le meilleur du monde.
À leur poste, oui,
Julien Beneteau.
Non, mais Ramos, aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur 15 de ce qui se fait dans le milieu du rugby. Tu demandes à n'importe quel sélectionneur des autres équipes, est-ce que tu veux Ramos titulaire dans ton équipe? Il va dire oui, le mec.
Demande aux Gallois s'ils préfèrent Ramos.
Les Gallois, ils prennent n'importe qui.
Non, mais c'est exceptionnel. Vous l'avez dit, il peut jouer 15, il peut jouer 10. Surtout, combien, moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune et que je faisais le rugby, qu'on disait, on souffre d'un buteur de niveau international.
C'est un énorme buteur,
c'est,
tu as raison.
C'est monstrueux, 85%, c'est monstrueux.
C'est une assurance, c'est
incroyable. Et moi, je pense qu'il a beaucoup d'influence sur ses partenaires. Là où Dupont, je pense qu'il a beaucoup d'influence positive. Enfin, il fait peur aux adversaires, Dupont. Évidemment qu'il a l'influence
avec ses partenaires. C'est pas le même poste.
Exactement, c'est pour ça. Mais oui, aujourd'hui, je pense que Dupont, c'est le meilleur 9 du monde. Et je pense que Ramos, c'est le meilleur 15 du monde. Flamand, j'en sais rien, je suis pas assez spécialiste.
Champion du monde,
ben ouais. Non, mais. Et puis, mais c'est dans un an et demi.
C'est pas les meilleurs joueurs du monde.
En tout cas, ça peut nous aider pour faire le grand chelem. Mais toi, tu.
Mecs qui jouent
mais toi, tu respectes pas. Toi, il y a que la Coupe du Monde. Mais si on fait le grand chelem cette année, c'est exceptionnel. Mais oui, c'est ça que vous comprenez pas. Faire un grand chelem dans un tournoi, c'est fantastique.
C'est exceptionnel.
Mais oui.
Question pour tous les amoureux.
En recevant trois fois chez nous, non, c'est normal.
Question culture rugby pour tous les amoureux de rugby. Est-ce que depuis Blanco, Ramos, c'est le plus grand 15 du 15 de France?
Attention.
Je vous pose la question et on débat.
Attention, je te dis, il y en a eu un qui est très beau. Qui venait de Colomiers, c'était
Sadourny, très très
fort. Qui a été très bon.
Jean-Luc Sadourny.
Pas buteur.
Sadourny.
Ah non, pas buteur.
Ah, ça compte.
Non,
il butillait. Il butillait.
Est-ce que Ramos, c'est le plus grand 15 de l'histoire du 15 de France depuis Blanco?
Jean-Baptiste Lafont était très fort.
Mais non, Jean-Baptiste, ouais.
Un grand 15.
Mais il était remplacé.
Je vais lui dire.
C'est sa formation.
Il avait 15.
Attends, je peux répondre à Adrien.
Oui.
Réponds à Adrien. Je veux dire, le problème de Jean-Baptiste Lafond, c'est qu'il y a eu Blanco.
Voilà.
Mais s'il n'y a pas eu Blanco,
Blanco, il aurait été titulaire.
Mais c'est la vérité, ce que je dis. C'était un immense arrière.
La meilleure ligne qu'on a vue,
Il a fini à l'aile parce que Blanco était titulaire.
Donc je résume. Quand tu sais jouer Blanco et Brain à l'aile, c'était la meilleure équipe que tu avais.
Je résume l'avis de Denis, c'est en 1 Ramos, en 2 Blanco, en 3 Lafond.
Dans ta hiérarchie.
Il a joué 15, il était monstrueux. Tu n'as jamais pu saquer Blanco quand tu jouais parce qu'il disait qu'il te faisait prendre de passe.
On enlève le buteur. D'accord.
Pourquoi?
On parle de la spécificité du poste. Blanco était le meilleur, le magicien.
Voilà. Oui, mais l'autre est en plus buteur.
Et en plus, c'est plus
mais bon, Blanco.
Oui,
Blanco,
voilà.
Ramos et Lafond.
Et Chadournier.
Allez, 32-16.
J'ai un message de Olivier Rouma.
Oui.
Ça vous intéresse?
Sur Lucien Mias?
Ouais. Lucien Mias, sa femme était chanteuse. C'était Jeanne.
Jeanne Mias.
C'était oui avant le Pays de Galles, on aurait dû vous le préciser, avant la rencontre contre le Pays de Galles, qui n'a pas été si simple que ça. Hein,
non, fait, non, hein. Mais Thomas Ramos, taulier quand même. Très grand joueur.
Moi, Thomas Ramos, c'est le plus important en fait pour la Coupe du Monde. C'est d'avoir un Thomas Ramos à 90% de réussite.
Bah, même plus parfois,
hein, il y a 100%. Sinon, on n'est pas champion du monde.
Non, sans Ramos, sans Dupont, on ne sera pas champion du monde. Dans un instant, Pierrot, une légende du sport français était venue nous voir. C'était le 23 janvier, Surya Bonaly.
À tout de suite.
Ça parle peut-être pas aux plus jeunes qui nous écoutent.
Vous allez la découvrir.
Restez bien là, phénomène.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est à 16h31. Si vous nous rejoignez dans une demi-heure, oui. C'est un débat sur l'OGC Nice qui est allé en finale de la Coupe de France avec une équipe vraiment, vraiment pas terrible et que les supporters n'aimaient pas.
Cette équipe peut-elle entrer dans la légende de l'OGC Nice? C'était le débat avant la finale.
Ah oui, ça c'est des débats qu'on peut faire qu'avant. Après, on sait évidemment.
Et oui, bien sûr.
Mais tout de suite, si vous ne connaissez pas Surya Bonaly, vous êtes forcément plus jeune que nous, eh bien, vous allez la découvrir tout de suite.
Là, on en connaît un rayon.
RMC.
Le cri du cœur du Super Moscato Show.
Pas sûr qu'on soit pas avec une débutante.
Ah, voilà, pas sûr qu'on soit des experts en patinage. En revanche, on reçoit une grande star qui, dans les années 90, faisait la une des journaux, télévisés, notamment Surya Bonaly. Bonjour Surya.
Bonjour.
Bonjour.
Cinq fois championne d'Europe, trois fois vice-championne du monde et un parcours atypique que tu racontes dans une bande dessinée. Le feu sur la glace, Surya Bonaly. 10 ans de haut niveau et une histoire totalement unique. La BD commence par les JO d'hiver de 98, c'est-à-dire par la fin en fait, hein, la fin de ta carrière. Et ce fameux salto arrière qu'on va réécouter.
Oh! I think she's done it because she wants to, because it's not allowed, so good on her. This is her last event and she's going to have fun.
Elle a fait ce qu'elle voulait faire, puisque c'est interdit, c'est sa dernière compète et elle se fait plaisir. Ce sont les commentaires, je ne sais pas si c'était ton état d'esprit. Pourquoi as-tu fait cette figure à Nagano?
Bien déjà, cette musique de Vivaldi me poursuit, hein, à chaque fois je l'entends, donc c'est le salto et Vivaldi. En fait, c'était ma dernière compétition en tant qu'amateur, et je savais que c'était mes derniers Jeux Olympiques, j'en avais déjà fait 3, donc je pense que c'était déjà presque un record. Et malheureusement, j'avais des problèmes de santé, j'étais pas au top de ma forme, je me suis dit c'est la dernière des dernières sur le champ international. Et je me suis dit il faut absolument que je finisse en beauté d'une façon ou d'une autre. Malheureusement, c'était pas en faisant une performance avec des triples dans tous les sens comme normalement ça devait le faire. Et là, je me suis dit, je crois que j'ai plus beaucoup de secondes à tenir ce programme, donc je crois que c'est maintenant si je veux faire quelque chose. Et j'avais envie un jour de dire de faire le salto, mais je savais que c'était interdit.
Ça a été choisi, tu l'as décidé sur le moment?
Ah oui, absolument. Parce que non. Parce que j'étais incapable de faire un triple saut parce que j'avais mal, je m'étais fait un claquage. Et là, je me suis dit, bon, là, si je pars un triple, je vais tomber, ou je vais pas le faire du tout. Et là, je me suis dit, je suis la première, je serai la dernière à faire le salto sur la glace aux Jeux Olympiques, donc c'est maintenant ou jamais, donc voilà, et garder cette image.
Alors une fois de plus, tu es un peu saqué par les juges, puisque c'est interdit, ce qui est normal, mais tu finis 10e, ovationné par le public. Est-ce que finalement, c'est pas ça que tu cherchais? C'est-à-dire finir avec l'adoubement du public, du patinage artistique.
C'était juste euphorique. Dans la patinoire de Nagano, on entendait le public qui était là à applaudir et à m'acclamer. Donc, c'était vraiment beau et féerique comme sensation. Après, les juges, bon, eux, ils avaient la tête sur leur fiche, sur leur note, en disant, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Alors, la dernière ou juste on met un moins bon score? Et en fait, j'étais même surprise que je ne sois pas dans les choux-fleurs ou même déclaré forfait exclu, carrément, en disant, on met un 0-0-0 et puis ça y est, on a fini.
C'était plutôt gentil, finalement.
Donc, voilà, en fait, c'était un soulagement, en fait.
Alors, ce salto final, il peut s'expliquer par le déroulé de toute ta carrière, puisque tu as été une patineuse très différente des autres. Tu débarques avec un style nouveau, très athlétique, très gymnique, alors qu'on recherche plutôt de la grâce à l'époque. Est-ce que tu estimes que tu étais jugée avant de patiner? Que toi, on savait que bon, t'allais pas faire comme les autres et que tu serais pas tout en haut du podium?
Mais en fait, c'était pas un choix. Je suis arrivée comme ça, c'était ma personnalité. Je suis arrivée avec cette image. Après, je pense que je suis un peu arrivée trop tôt dans le monde du patinage, peut-être 30 ans en avance. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais été acceptée. On me disait, bon, ben voilà, elle fait de la gymnastique, ça se voit, mais à la fois, elle est athlétique. Et point barre. Maintenant, dans le temps, on me disait, ah non, ça va pas. Beaucoup de critiques. Il fallait être joli et classique, avoir une image sur la glace.
Sur la danse davantage que sur la gym, sur l'athlétisme.
Oui, et puis en plus, je suis arrivée au début de ma carrière avec des musiques de films. Je pensais que c'était sympa de faire la guerrière avec Conan le Barbare, des musiques.
C'était nouveau, ça.
Oui, des musiques de films. Je trouvais que c'était chouette.
Christian Lacroix qui fait.
C'était original, mais je trouvais que c'était bien pas d'imposer, mais c'était moi, j'adorais la musique. Je préfère être en cafard qu'avoir un Rachmaninov. Mais après, j'ai vraiment compris qu'en fait, si on voulait faire du patinage de haut niveau, à ce moment-là, il fallait avoir des musiques super très classiques. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai fini par Vivaldi, les 4 saisons. Donc, c'est vraiment les deux opposés.
Est-ce que tu en as souffert de ces critiques quand tu es arrivé dans le haut niveau?
Oui et non. Oui, parce que c'est pas agréable d'entendre ces rumeurs. Enfin, c'est vrai, quoi, malheureusement. Mais après, j'avais de la chance car ma famille et mes profs essaient toujours de me protéger, de me dire n'écoute pas ça ou c'est pas tes affaires. Toi, t'es là pour t'entraîner et faire tes sauts et faire des programmes qui sont presque parfaits. Donc, occupe-toi de tes entraînements et puis nous, on s'occupera du reste ou bloquer les journalistes qui ont des mauvais mots.
Souria Bonali, le feu sur la glace, c'est aux éditions Marabule.
Si on me cite quelqu'un qui fait du patin à glace, pour moi, c'est toi. Tu nous as fait découvrir quand nous on est joueurs de rugby, certains ont fait de la boxe, du football, du basket. Je veux dire, on n'était pas très branchés, surtout dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. On connaissait pas le patin à glace. Et même encore, quand la première image, si je regarde une compétition, à un moment donné, je vais
Philippe
te voir.
Candeloro
derrière, tu vois. Et c'est comme ça, tu as marqué quand même, et tu as fait venir à ce sport énormément de jeunes qui ne connaissaient pas du tout ce genre de sport, quoi.
C'est vrai qu'on a eu de la chance. C'était un peu, on arrivait au bon moment. C'était les années dorées, comme on dit. Et le patinage était vraiment réputé. Et les gens venaient nous voir entre Katarina Witt qui a commencé et puis après nous qui nous sommes arrivés. Philippe avait un style de patinage qui était chouette. Et qui faisait...
Si vous avez le même âge avec Philippe.
Non, il est un peu plus âgé que moi. Deux ans.
Ça se voit.
Souria Bonali, le feu sur la glace.
Comment tu as géré la notoriété à l'époque? Donc pour les plus jeunes qui nous écoutent, les années 90, tout le monde te connaissait, tous les Français te connaissaient. Tu as un caractère plutôt discret.
Comment tu as géré réservé. Tout ça? C'était un peu dur, mais heureusement j'étais bien entourée. Mon papa gérait tout. C'est vrai que c'était un peu dur. Bon, il y a pendant quelques années, même voire 5 ans, je sortais jamais dans les magasins. C'était mon papa qui, je lui donnais une petite liste à faire et puis il allait faire les courses, que ça soit pour aller faire les courses tout simplement ou pour aller acheter des vêtements.
Il avait ma taille et tout ça.
Ah oui, tu te cachais un petit peu.
Ah oui, carrément, parce que c'était dur. C'était la.
Tout suite. Mais c'était la plus grande star.
Et surtout, elle a gagné. Non, mais parce que t'as gagné, surtout.
Oui.
5 titres européens.
Patineuse
c'est vrai que j'étais connue rapidement, mais à la fois les gens étaient à la fois presque possessifs parce qu'ils disaient oh là là, je viens d'avoir un autographe maintenant. Mais si c'était minuit dans la rue que je le faisais pas, ils disaient non, vous êtes plus sympa à la télé qu'en vrai. Alors je disais non, je veux pas faire ça parce que j'avais une mauvaise réputation. Je continuais et 2 heures du matin, je suis déjà en train de signer.
Tu disais peut-être que j'étais 30 ans trop tôt, mais toi qui étais très discret, tu te rends compte aujourd'hui la vie des sportifs avec les réseaux sociaux, tous les médias, ça aurait été invivable pour toi.
Ça aurait adapté, non?
Oui,
ça l'était déjà. parce qu'il n'y avait selfies, que trois chaînes de télévision. Et quand pas, oui. tu passais à la télé, il y avait 15 millions de gens qui regardaient.
Voilà, oui, oui,
il y avait trois chaînes. Hein, donc, c'était un peu la même chose pour toi.
Souria, donc au niveau européen, tu as dominé pendant toute ta carrière. Niveau mondial et olympique, il s'est toujours passé quelque chose qui t'a empêché d'aller tout en haut. Il y a une année peut-être où c'est une vraie injustice. C'est en 1994, à Chiba, au Japon. Tu sors le programme parfait et tu termines deuxième derrière une japonaise, Yuka Sato. On va réécouter là encore ce moment historique du sport français des années 90, la remise des médailles.
Coup de théâtre. Au pied du podium, Souria refuse de monter sur la deuxième marche. L'officiel chargé de lui remettre la médaille d'argent est décontenancé. Les bravos de la foule se transforment en sifflets. Finalement, Souria fait contre mauvaise fortune bon cœur et accepte. L'incident est clos, ou presque. L'émotion, sans doute aussi la déception, l'emportent à nouveau. Souria ne gardera que 12 secondes au cou sa médaille d'argent.
Tu devais être championne olympique ce jour-là, à Chiba en 94.
Championne du monde.
Championne du monde, c'est pas grave.
Ben oui, même l'année suivante, je me suis fait encore avoir. J'ai eu encore la deuxième place. Donc je crois que je collectionne les deuxièmes places.
Est-ce que c'est à cause de ta réputation? Est-ce que c'était joué d'avance encore une fois? Est-ce que tu as eu ce sentiment du moins?
Je sais pas, parce qu'en fait, quand on va à une compétition, on se dit, bon, première chose, je dois faire tout ce que je dois faire dans le programme. Je l'ai fait, j'ai rendu mon compte, absolument. Je n'avais pas de regrets. Malheureusement, la japonaise était quand même une bonne patineuse de haut niveau. Son papa était champion du monde, avait déjà une bonne réputation. Après, quand on, normalement, on fait de la compétition de haut niveau et qu'on patine dans un pays, souvent, c'est la personne du pays qui gagne. Donc, bien que quand on va en France, on fait une compétition, c'est des étrangers, je n'ai jamais un français, mais bon.
Nous, on dit peut-être plus fair play, mais moins chaud.
Nous, on est cool, on laisse passer les autres.
Le geste de la médaille, là encore, c'est improvisé. Tu te souviens pourquoi tu as fait ça?
Un petit coup de nerf pour dire ras-le-bol, c'est bon. Là, donc, j'ai mis le point sur la table en disant là, c'est bon, j'en ai ras-le-bol.
C'est très aléatoire, c'est subjectif. Parce que les notes artistiques, comme ça, les juges.
Et puis en boxe,
il y avait les gros problèmes, c'était ça.
Oui,
c'est que d'un juge à l'autre, tu avais des différences qui font que tu fais un peu gagner qui tu veux. Quoi.
Oui, et puis en plus, si ça avait été un homme, fait par un homme, ça aurait été plus accepté. Ça arrive souvent, un coup de gueule, un coup de poing, et puis voilà, on en arrête là. Une femme, oh là là, choquée tout de suite. Et puis, en plus, c'est pas comme l'athlétisme ou la natation, où c'est un sport de chrono. Là, c'est subjectif. On sait, oui, non, ça me plaît moyen. Enfin, j'aime bien sa robe, mais j'aime pas son prof. Donc voilà, et puis c'est une Française, allez hop.
J'aime pas la musique aussi.
Et Souria, il y a dans l'équipe de France.
J'ai eu les mêmes soucis à Danse avec les Stars. J'ai fait Danse avec les Stars. J'ai eu les mêmes soucis. Alors que j'étais merveilleux au niveau de la danse.
Dans l'équipe de France qui va participer au JO de.
C'était l'humour, j'étais nul.
De Milan-Cortina, il y a Adam Seoimfa. Qui fait le salto lui aussi, qui l'a fait plusieurs fois en compétition alors que c'était interdit, qui a finalement réussi à le faire autoriser par la Fédération Internationale. Est-ce que c'est un peu ton héritage? Est-ce que tu en as discuté avec lui?
Non, on ne se parle jamais. Je ne lui ai jamais vraiment parlé. Après, la nouvelle génération, les jeunes, ils croyaient que c'est des champions. Nous, les vieux, on est des vieux. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc, lui, j'ai l'impression qu'il a un peu créé. Je l'ai vu grandir. J'ai déjà fait des spectacles quand j'étais gamine. Je rappelle aller à Toulouse faire des spectacles dans le club de Toulouse chaque année. Donc, je suis sûre qu'il m'a vu grandir. Mais bon, c'est vrai que je n'ai pas souvent entendu dire. C'est vrai, j'ai vu Souria le faire et que ça m'a donné envie. Je me suis dit, un jour, je vais le faire. Mais bon, après, peut-être qu'il a oublié cette phrase dans l'interview. Et en plus, de toute manière, le vrai champion du monde, j'espère le futur champion olympique, lui, commence à le faire et atterrir sur un pied.
Alors,
il est champion américain.
Si vous voulez vous régaler, dis-nous en un mot, il y a en ce moment un vrai phénomène sur la glace qui s'appelle Ilia Malinin.
Exactement.
C'est américain. Il fait des choses que les autres ne font pas.
Et il est exceptionnel et j'espère que ça va durer. Je ne sais pas combien de temps il peut tenir à ce niveau parce qu'il fait le quadruple Excel, c'est quelque chose d'incroyable. 4 tours et demi, c'est énorme. Après, il saute comme un diable. Oh non, mais il est exceptionnel. Déjà, il est très mince et puis il a une forme. Il n'est même pas fatigué quand il finit son programme de 4 minutes avec 7 quadruples. Et je pense qu'il n'avait aucune goutte de transpiration. Non, je dis,
c'est un phénomène. Ça vaut le coup de suivre le patinage artistique.
Et en plus, il fait le salto et maintenant, il le fait sur un pied. Donc, pas comme le mien. Donc, j'ai toujours le bon Ali. Donc, peut-être qu'il aura un autre salto. Je ne sais pas. En tout cas, c'est super. Donc.
Merci beaucoup, Souria. Alors, merci beaucoup. La BD s'appelle Souria Bonali, Le feu sur la glace. C'est aux éditions Marabule. Et c'est parfait avant les Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
C'est une bonne idée.
Une bonne idée, ouais.
Merci beaucoup, Souria.
Merci.
Merci. C'était magnifique.
Super, merci. Merci.
Ben, n'hésitez pas de l'acheter, hein, ah oui, à l'acheter, la Fnac, Amazon, tout ça,
c'est un bon. Et à très bientôt sur.
Et surtout les jeunes qui font du patinage, oui. N'oubliez pas de dire, c'est grâce à la bonne idée.
Non, mais c'est un beau livre pour les jeunes, les moins jeunes, et après pour les fans, les collecteurs, c'est chouette.
Bon. Merci encore, Souria.
Tu reviens quand tu veux, Souria.
C'est gentil, merci.
T'habites un peu loin, c'est vrai que c'est pas à côté, mais.
Non, mais je reviendrai.
Tu es la bienvenue.
Elle a pas ta langue dans sa poche.
Quelle championne, hein.
Elle allume les patineurs actuels, là.
Ouais, c'est incroyable. Moi, je croyais qu'elle allait dire du bien.
Elle
pas
a
du
découpé,
tout.
Quoi, c'est incroyable.
Allez, on repasse à l'OM. Ouais. Habib Bey, est-ce le bon choix après le départ de Dezerbi?
C'est le retour de l'un des chouchous du Vélodrome.
Bid, ah, mais son adjoint, Babaloula. Habib Babaloula.
174 matchs sous les couleurs de l'OM entre 2003 et 2007.
Dans ces championnats des merdes.
C'est en costume. Ouh. Et sur le banc, Habib Bey retrouve Marseille.
Quel championnat des merdes.
Habib Bey sort pourtant d'une expérience mitigée au Stade Rennais.
Ouais. Il dit quoi? Bye bye. Bye bye.
Habib Bey débarque dans un contexte brûlant.
Habib, tu vas brûler.
Trois semaines après l'élimination en Ligue des Champions.
C'est un grand match de Ligue des Champions.
Habib Bey, c'est aussi le symbole d'un OM en pleine mutation.
De renouer avec leur histoire, de renaître de leurs cendres, un petit peu comme un sphinx.
Il renaît de ses cendres, tel le sphinx.
Depuis que le propriétaire Franck McCourt a élargi les pouvoirs de Mehdi Benatia.
Et tel le phénix, il ressort de sa boîte, comme ça, il gagne.
Déclassant ainsi Pablo Longoria.
Tout le monde, il dit qu'il y a des maillots, des choses. Hein?
L'Espagnol.
Quelle est ma nationalité?
Aimerait d'ailleurs quitter l'OM dans les prochains jours.
Corruption dans des championnats de merde.
Sans dos cosas, décide d'art.
RMC, le gros débat du Super Moscato Show.
Quel oubli, quoi. Alors, le seul problème de cette période, c'est que Pablo Longoria va nous manquer quand même.
Non, mais c'est sûr. T'es fou, c'est à pleurer de rire. Hein,
on l'entendait plus trop, tu
sais. Ouais, c'était
celui. Non, mais c'est nous, vrai c'est pas, on n'a pas besoin de ça.
On en a quand même un stock. Hein.
On en a en stock.
On a du stock, quand même.
Donc, Habib Bey a dirigé son premier entraînement en tant que coach de l'OM. Demain, premier match à Brest en Ligue 1. Ensuite, réception de Lyon en championnat, puis de Toulouse en Coupe de France. Bey jeté dans le grand bain. Est-ce le bon choix dans cette période pour l'OM 32-16, vous venez nous le dire, supporter de l'Olympique de Marseille, c'est vous qu'on veut entendre, hein, sur RMC. Maxime Tilliette était à la présentation aujourd'hui. Salut Maxime.
Salut Pierrot, salut tout le
comment
monde.
Comment il va?
Habib Bey a-t-il dévoilé ses plans pour l'OM à court terme?
Bah, déjà, il est resté quand même assez évasif parce que bon, en seulement 24 heures et un seul petit entraînement, dur de vouloir révolutionner l'OM. Donc, nous a surtout dit qu'il voulait s'appuyer sur le travail fait par le staff jusqu'ici, notamment avec Pancho Abbandonado qui intègre son staff également. Mais Habib Bey n'a pas voulu dire qui serait son capitaine ni son gardien. Il réserve cette info à ses joueurs. En revanche, il veut ramener le calme à Marseille après un Roberto De Zerbi volcanique.
Je pense qu'on est tous différents en tant que coach. Je me souviens de quelqu'un qui m'est très cher et pour qui j'ai eu une pensée hier. Quelqu'un que je considérais comme mon père spirituel, Pape Diouf, qui m'avait toujours dit, Habib, quand le feu brûle à Marseille, parfois il faut le laisser brûler parce qu'il s'éteint tout seul. Mais de temps en temps, il faut être capable, face à cette émotion-là, de rester froid et de rester calme et serein. Je suis quelqu'un d'assez calme. Par le moment, je peux être volcanique. Mais je crois que c'est lié aux émotions en ce moment. Ce qui est important, c'est d'apaiser le contexte. Et ce que j'ai dit aux joueurs, c'est justement qu'on allait travailler dans la même direction et c'est ce qui va faire aujourd'hui qu'ils vont se sentir en sécurité. Et le plus important, c'est que nous, on soit très serein, très posé dans ce qu'on a défini avec le propriétaire et Mehdi. C'est justement apaiser ce contexte, mais qui restera volcanique quoi qu'il arrive.
Habib Bey a fixé comme objectif de retrouver le plaisir, se qualifier en Ligue des Champions. La Coupe de France n'a pas été évoquée, mais rendez-vous compte, il n'y a que 13 jours entre son dernier match avec Rennes et son premier demain avec Marseille du côté de Brest. Mais il a l'avantage, au moins Habib, de connaître l'environnement marseillais.
Ce qui peut m'apporter ces quatre années, c'est de connaître un peu le contexte. Mais pour moi, le contexte a évolué. Il s'est passé plus de 20 ans. Le club, aujourd'hui, reste un club avec une aura et un impact aujourd'hui en Europe qui est énorme. Et donc, ça n'a pas changé. Il faut qu'on arrive à ressentir ce qu'est l'Olympique de Marseille. Pour moi, il faut respirer cette ville. Il faut la ressentir. Il faut incarner ce qu'est cette ville, mais à travers l'Olympique de Marseille. Et si j'ai peut-être cet atout-là, c'est d'avoir, en fait, senti, en quelque sorte, avoir la volonté d'incarner ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, comme je les connais, il va falloir que je sois capable de les retranscrire à mon groupe, tout simplement. Ça me donne pas de crédibilité plus qu'un autre. Je serai attendu comme tout le monde sur les résultats et donc ça passe par un gros résultat demain à Brest. Il va falloir qu'on aille chercher notre résultat.
On a pu voir pas mal de sourires et d'accolades entre lui, ses nouveaux joueurs et ses trois adjoints ce matin à l'entraînement. Tous partiront en stage à Marbella la semaine prochaine pour voilà préparer la réception de Lyon et aller déjà au-delà dans le plan de jeu. Mais c'est vrai que ce match de Lyon sera déjà un rendez-vous très très important pour l'OM qui compte déjà 5 points de retard sur Lyon.
Le bon choix, Bey, Vincent.
Bah oui, je pense que c'est le choix du moment. Je crois qu'il s'entend bien. Déjà, quand tu fais un choix, Benassia, il fait un choix d'un mec avec qui il s'entend bien. Donc c'est le meilleur choix. Déjà, tu peux travailler avec quelqu'un parce que c'est bien beau d'aller chercher Pierre-Paul Jacques. D'abord, il y en a pas sur le marché. Il y a pas quand même. Ça se trouve pas sur le
sabot. Dans l'urgence comme ça, c'est dur.
Cheval, ouais, c'est très dur. Surtout Marseille, il y a encore plus de pression. Donc ouais, c'est bien. Après maintenant, faut qu'il fonctionne. Qu'est-ce que je veux te dire dans 4 ou 5 matchs, je te dirais si c'est bien ou pas bien. C'est les résultats. Les raisonnements, c'est bien beau. D'ailleurs, il en fait pas trop. Hein. Il est là, tranquille, Abid Bey.
Non, mais c'est pas grave. Oh,
les gars,
on enchaîne.
On enchaîne, là, Bey. Le pauvre Bey. Donc, écoute-moi, si toi, Bey. Et donc, ça va le faire. Ça va le faire. Moi, je suis confiant pour lui.
Plutôt bonne
idée. C'est une bonne idée. C'est un mec, il connaît Marseille. Bon, en fait, ça sert à rien de connaître Marseille. J'ai bien compris. Ça sert à que dalle. Donc,
il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle. Aucune règle. Et puis surtout, quand t'es l'enfant du cru, tu peux te faire assassiner 3 fois plus. Donc, ça, c'est comme quand tu nous disais, Eric, quand t'es le joueur d'un club, que tu joues depuis les gamins dans ce club, en général, t'es le plus mal payé. Donc là, les mecs qui vont te sabater si ça se passe mal. Donc, il n'y a pas de. On ne sait pas. Pour moi, il a bien fait.
Il s'entend bien.
Bon, mais voilà, après, il a eu des résultats. Ah non.
Non.
Donc, ça va le faire. Allez.
Eric, c'est le bon choix ou pas?
Écoute, moi, ça, tu sais quoi, ces débats là, chaque fois là, c'est, alors, on est obligé de les faire, bien sûr, et je crois que c'est le sport numéro 1 des supporters. Le ressenti, je vais te répondre, mais tu sais, c'est vrai que ça nous plaît de savoir c'est le bon, c'est pas le bon. Mmh. Regarde, Sage, quand il arrive à Lens, on le sait si c'est le bon, si c'est pas le bon, quelle expérience il a avec Lyon.
Moi, j'avais dit que
regarde, comment il s'appelle, Carrick, là, qui arrive à Manchester United, qui gagnait plus un match depuis des années, c'est il arrive à moins de 2, il fait les 5 matchs qui coupent les cheveux à l'autre là. Donc on ne sait pas. Et puis après il y a des cadars. Regarde même Fonseca quand il arrive à Lyon. Vous vous souvenez quand même comment ça se passe? Au bout de 15 jours, il prend, je sais plus combien de mois de suspension. Ici dans l'émission, je donnerai pas les noms, mais il y a des mecs qui voulaient le virer.
Pas moi.
Vous vous souvenez quand même? Vincent, des mecs qui voulaient le virer. C'était un débat qu'on a fait. Certains voulaient le virer. Regarde ce qu'il fait à Lyon aujourd'hui. D'abord, quand il y a entraîneur, tu peux être un très bon entraîneur dans un endroit et moins bon ailleurs, selon le contexte, selon l'équipe, selon même comment toi tu appréhendes le club. Voilà. Donc, tu peux avoir échoué dans un endroit et réussir ailleurs.
Mon premier,
je suis content que tu le dises parce que j'arrête pas de vous dire qu'on survend l'importance des entraîneurs dans le football. Et tu sais pourquoi? Je le sais pourquoi on fait ça. Parce que, comme tout le monde veut parler, alors encore plus au foot qu'au rugby, parce que vous, au rugby, c'est tellement compliqué qu'il y en a peu qui s'aventurent à parler de tactique et de machin et tout.
Aller
à la muscu et faire des scraps. mais alors que dans le foot, on est content de pouvoir parler de tactique parce que, mais oui, ça nous fait plaisir, on a tous joué au foot. Et donc, on pense tous connaître le foot. Et donc, on a envie d'être à la place de l'entraîneur. Donc, les joueurs sont les plus importants. Et une des tâches d'Habib. Donc, pour répondre à ta question, pardon, Adrien, c'est moi, je suis content qu'on reparle de foot.
Que ce soit réglé.
Ces dix jours ont été très douloureux pour moi. Voilà, très douloureux. Bon, d'abord, il y a eu la branlée au parc, avec tout ce qui s'est passé derrière. Derrière, le coach qui s'en va, et qu'il a plus beaucoup de les ressorts et tout. Moi, je pense qu'il aurait dû rester et finir la saison proprement. Il aurait pu aller chercher les résultats. S'il n'a pas fait, c'est peut-être qu'il se sentait plus la force. Ok, donc pas de souci. Derrière, Mehdi qui s'en va pas, des débats qu'on fait. Moi, je trouve qu'on aurait pu se passer de tout ça. Voilà, ça donne toujours une image de notre club qui est terrible, alors que la saison elle est pas finie et elle est pas nulle encore. Donc voilà, on me reparle de foot. Ça c'est la bonne nouvelle. On reparle de foot avec un mec qui, mon seul bémol, c'était est-ce qu'il est pas trop fatigué de son passage à Lens, à Lens, à Rennes, qui a l'air de l'avoir lessivé avec son vestiaire et tout. Mais j'ai l'impression que il arrive, il avait dit c'est son rêve d'entraîner l'OM. Donc Habib, il arrive dans le club de ses rêves. Donc bon, mais il va avoir du gaz avec un président ou en tout cas un directeur sportif qui a tous les pouvoirs aujourd'hui et avec une équipe qui est qu'on a peut-être survendu, mais qui est quand même une, il y a des bons joueurs. Voilà. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait un coach qui arrive. Et Habib, il connaît les joueurs, il connaît le championnat, il n'y a pas de souci. Et j'ai envie de voir l'OM avec trois matchs de suite, la même équipe, le même dispositif. Voilà, tu vois, pour voir un peu.
Ce serait bien.
Et simplement ça, moi, ça suffit à mon bonheur. Après,
Eric, on verra. Il y a une enquête qui serait bien pour Mac Courte. Ce serait bien, nous, qu'on sache si aux États-Unis, mettons à Chicago, parce que je compare Marseille à Chicago. À Chicago, la mentalité est la même, qu'il y a toujours des embrouilles il faudrait savoir si le même club que Marseille aux États-Unis. Ouais. Ça serait intéressant de savoir.
Les formules, mais c'est pas la même.
Mais non, les formules du sport.
Tous les mêmes supporters et tout ça.
Oui,
ça c'est là-bas, ils s'en foutent, ils peuvent pas descendre.
Mais quand je m'intéresse, j'ouvre un peu le débat de savoir si Mac Courte était préparé. Oh, vous m'emmerdez. Et bien voilà, parce que Mac Courte était président des Dodgers. Et donc, tu te rappelles qu'on avait dit ça, Dodgers. À part que Marseille s'habille en beaucoup plus moche, mais autrement, c'est savoir s'il y a les mêmes embrouilles aux États-Unis.
Ce serait super intéressant de faire une enquête.
Quand vous verrez l'enquête à Canal, parce que je le vends
à la FF. Quand on arrive à Boston, tu demandes aux gens dans la rue.
Voilà, tout simplement.
Habib Bey, est-ce le bon choix pour l'OM 32-16? On va donner la parole au supporter marseillais. L'avis de Denis Charvet d'abord. Denis.
Le bon choix. Bonjour, on le saura après, évidemment, mais on est incapable, personne ne sait aujourd'hui si c'est le bon choix. Hein. Même si on...
Encore une fois, tu peux avoir un ressenti.
Oui, voilà, le ressenti,
Vous êtes sceptique, en fait, en vrai.
Non, je suis pas sceptique, mais après, t'arrives avec un nouveau discours, un nouveau message, c'est très beau ce qu'il fait. Enfin, je
voudrais savoir si ça a déjà été fait ailleurs dans le monde.
Non.
Non, mais tu vois, c'est que vous êtes sceptique, quand tu l'écoutes, c'est séduisant.
Ah, moi, j'ai pas dit que j'étais sceptique.
Il parle bien, c'est séduisant. Il a fait de la com, il fait de la télé, donc c'est son métier. Attention, là, il ne faut pas
s'y méprendre.
C'est important.
Non, mais c'est très important.
Mais après,
Adrien, il arrive avec Guardiola aujourd'hui.
Non,
à l'OM.
C'est pas vrai, Eric. Si c'était Christophe Galtier qui était arrivé là, t'aurais dit évidemment. Ouais, c'est cool. Non, c'est cool. Là, vous dites pas c'est cool.
Mais non, par rapport à mon choix,
j'ai aucun problème avec l'arrivée d'Habib Bey à l'OM.
Vous n'êtes pas enthousiaste comme si c'était Christophe Galtier, par exemple. Moi, j'ai hâte
de voir ce que Habib va faire à l'OM.
Je vous aide un peu parce qu'il a déjà expliqué un truc sur le jeu. Il a dit on doit être vertical, on doit proposer du jeu vertical.
On est bien.
Non, mais attends, c'est important, Vincent.
C'est vrai que la passe à 10, ça me gonflait.
Parce que c'est l'inverse du jeu de deux Zerbi.
Oui, c'est-à-dire se projeter vers l'avant.
C'est du handball, le jeu de deux Zerbi.
Je rejoins Vincent quand il dit le seul truc positif, c'est qu'ils s'entendent bien avec Benassia. Je trouve que c'est bien. Voilà, c'est un duo. Quand un entraîneur et le patron, il faut que ça s'entende bien.
Faux argument, il n'allait pas faire venir quelqu'un qui n'aime pas Benatia.
C'est pas un faux argument.
Si. Alors, je vais vous dire, il y a beaucoup de supporters qui disent.
Quand même! Si tu fais venir, l'entraîneur, tu fais venir des fois des mecs que tu connais absolument pas la plupart du temps d'ailleurs.
Il y a beaucoup d'entraîneurs de l'OM qui sont inquiets parce qu'il a échoué à Rennes. Tout simplement, il y a Tom sur WhatsApp qui nous dit un entraîneur qui n'a pour seule expérience qu'un cuisant échec à Rennes.
Ça veut rien dire.
La première année, quand il vient, Rennes est très très mal. Il est.
Il en fait bien. Non, mais tu sais très bien que ça dépend d'un contexte, un entraîneur, ça dépend de toute artillerie.
Surtout, faut bien se rendre dans l'évidence qu'un entraîneur au foot, ça sert pas grand chose.
Alors malheureusement. Là encore, quand on connaît la fin, on sait que c'était pas un choix fantastique, mais y avait-il un bon choix? Y avait-il un meilleur choix qu'Habib Bey?
Pancho à Bardonado peut-être. Fallait lui confier les clés du camion.
Il était là, hein.
Il était là, Pancho, oui c'est vrai.
Allez, à tout de suite pour le Journal Moyen, deuxième édition.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Il est 16h45 sur RMC. Voici le journal moyen.
J'allais dire top jingle, c'est horrible.
Deuxième édition. Faute. Oh là là.
Restez bien là, journal moyen tout de suite avec un Denis Charvet qui n'arrive pas à dire bonjour au début d'une émission. C'est la magie de Denis.
C'est parti.
Deuxième édition sur RMC avec de grosses saucisses tout le week-end. Van Aert est le héros de la Belgique. Et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Éric Dimeco sort d'un grand chelem. Bravo Eric.
Bravo.
Vous écoutez RMC, c'est le 2613.
Un peu comme Bordeaux, il y a eu des circonstances favorables, mais bravo quand même.
Bravo. C'est le 2613e journal chance, moyen de l'histoire Bordeaux. Du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
Rotten sans flamme, vendredi 18h sur RMC. Ah, pris par la patrouille, Jean-Michel Larquet. Il veut dire à ce moment-là, Jérôme Rotten, qu'il est d'accord avec lui sur le président de l'OM. Ils ont le même avis. Jean-Michel, comment tu dis ça ?
Jérôme, j'ai bien écouté ce que tu as dit et je suis totalement d'accord avec moi.
Oui, d'accord avec lui.
Il est souvent, d'ailleurs, c'est un peu ce qui marque sa carrière.
Ça, c'est incroyable. Et puis dans la foulée, soyez attentifs, il nous offre même un petit Moscar, une histoire de sous le pied.
Je suis totalement d'accord avec moi. Flo, au risque de te couper l'arbre sous les pieds. Sous
mais Flo. Tu tombes de haut, là.
Ouais, parce que si tu coupes l'arbre sous les pieds, tu tombes de très haut, Jean-Michel. Hein, capitaine, attention.
Fracture du fémur.
Attention, okay. Capitaine. J'ai écouté l'after également. Ah, bonne cliente sur, ce lundi dans le journal moyen. Karine Galli. On parle du Real Madrid, des entraîneurs différents avec Kevin Diaz. Karine Galli, en grande forme.
Elle est catastrophique dans le sens où c'est le plus grand club du monde. Ils choisissent un entraîneur.
C'est Karine Galli, ça.
Xavi Alonso, il avait tout pour réussir au Real.
Il pouvait caser toutes les coches.
Mais il casait toutes les coches. Il pouvait caser toutes les coches. Oui, oui,
merci.
Comme le Brême Jones.
Tu
aimes caser toutes les coches.
Et puis j'écoutais les paris également.
C'est le même truc.
Avec midi, les midi 10, c'est le début des paris. Georges Quirino, Denis, le bonjour de Denis. Et sur le bonjour de Denis, moi je te connais par cœur, il n'y a pas de drame. Ah. Mais je sais que tu es sur un fil. Notamment, tu dis bonjour à toute la bande. Et juste avant de dire bonjour à Lionel, on est sur un petit doute.
Denis Charvet, restez avec moi. Salut Denis.
Salut à tous. Voilà, je salue Pascal avant l'heure ou Lyon.
Ah, c'est pas okay.
Lionel, voilà. Notre ami Christophe.
Qui Qu'est-ce que t'as fait Lyon.
Salut à tous.
Lyon. Lyon.
Parce que
je vais te dire pourquoi.
T'es pas avec nous, tu faisais tes paris.
Non, pas du tout. Parce que normalement c'est Lyon.
Lyon. Je me suis trompé sur le Lyon. C'était Lyon en fait.
Lyon.
Non, mais Lionel ou Lyon.
On peut écouter
Benjamin.
C'est vrai.
Ouais,
allez, je sais.
Ça, c'est un petit bonbon. Salut à tous.
C'est un petit bonbon qui s'appelle ici. Alors, il y a eu un petit salut à tous au début.
Je viens de faire 3 heures avec le Giorgio.
Oui, bon, ça va, c'est pas gratuit non plus.
C'est bon,
Richard est resté avec moi. Salut Denis.
Salut à tous. Voilà, je salue Pascal avant l'heure ou
Pascal.
Lyon.
Ok, Lyon a eu notre ami Christophe qui est mort à l'intérieur.
C'est très bon, c'est très bon.
Tu nous l'as mal vendu parce que c'est exceptionnel.
En fait, c'est décousu. Non, pas décousu.
Salut,
c'est pas tout. Il m'a
pris au dépourvu, mais pas du tout, parce qu'il me prend du pourvu. J'étais pas. Il me lance à moi, il ne devait pas me lancer à moi.
Dans les paris également, Lionel Charbonnier.
Quatrième heure.
Lionel Charbonnier sur Liverpool PSG. Lionel sur l'ambiance à Anfield. On est sur une nouvelle expression, Vincent. De Lionel Charbonnier.
Attention, hein, tout le monde dit c'est extraordinaire, c'est l'ambiance, ça peut amoindrir. Déjà, PSG, maintenant, ils ont l'habitude des grosses ambiances, il n'y a pas de souci. Et tu peux mettre la clim très, très vite. J'y suis allé, ça a été très vite fait. Hein. Tu marques un but d'entrée et il n'y a plus un chat qui bronche.
Plus un chat qui bronche.
C'est un hommage à Fred Pouille.
C'est vrai que le chat, cette particularité,
Charbon, Charbon est en train de dire qu'avec Auxerre, il a climatisé en Glasgow.
Non, mais Auxerre, bien. Avec Auxerre, bien sûr.
Oui.
En coupe UEFA.
Il a mis triplé, Charbon.
Sans transition.
Triplé, ouais.
Les grandes gueules du sport, 9h midi sur RMC, samedi et dimanche. Jérôme Pinault réagit à une déclaration de Vahid Ali Lodzic, le coach de Nantes, qui a dit en gros, moi je suis là juste pour aider, voilà, pas trop impliqué dans le projet nantais, selon Jérôme. Jérôme Pinault, comment tu dis quand tu es exaspéré?
On parlerait pas de Ligue 2, mais bien plus bas. En revanche, moi, Pascal, je sais pas ce que tu en penses, mais je suis exacerbé par le discours tenu par Vahid Ali Lodzic.
Trompé de mots, ça peut arriver.
Alors, il voulait dire quoi?
Je suis exacerbé.
Exaspéré.
Et puis l'Intégral Sport. Ah, j'ai du Christophe Cessieux, vous en voulez? Alors c'est un peu comme Denis. Vachereau, le joueur de tennis monégasque, a quand même pas mal résisté à Alcaraz. Il l'a regardé droit dans les yeux. 6-4, 6-4, Christophe, une histoire des yeux là.
Un tout petit mot de Vachereau qui quitte le court, qui quitte ce tournoi, mais vraiment en pouvant regarder tout le monde les yeux en face.
Il s'arrête pas.
En face des trous, quoi.
Les yeux dans les yeux, quoi.
Il y a une belle bande, quand même. Voilà,
non, mais Christophe, il fait 3h le matin, il enchaîne.
L'après-midi,
il sait plus ce qu'il dit.
Tout l'après-midi,
il sait plus ce qu'il dit.
Il fait le radio dans la journée.
6h,
ouais. 6-7 le samedi, ouais.
Faites pas bélier, quand même. Heureusement qu'il est pas chirurgien, parce que j'annonce l'entrée en jeu dans ce journal moyen de Karine Galli dans cet Intégral Sport Paris-Roubaix féminin avec notre championne française en course. Elle a gagné le Tour de France, c'est une énorme star. Comment s'appelle cette championne, Karine?
On revient te voir dans quelques minutes. Un petit point sur Paris-Roubaix féminin. Vous le savez, tout à l'heure, on a vécu l'incroyable victoire de Wout van Aert. Chez les filles, tout va bien pour l'instant pour Pauline Perromagnin. Elle est en tête dans un
Alors, on est sur commotion cérébrale en direct pour Karine. Karine, en grande forme également, parce que quand on passe au tennis, la finale de Monte Carlo, Sinner Alcaraz, Karine Galli, deuxième édition.
Et puis nous étions à Monte Carlo il y a encore quelques minutes. Eric Salio nous a fait vivre le premier sacre lors du Master 1000 de Monte Carlo pour Yannick Sinner, l'Italien qui a battu Alcaraz.
Ah oui, quand même. Faut rebooter Karine, là. On appuie sur le.
Alcaraz. L'Espagnol. Alcaraz en 2-7.
Elle a plus de batterie.
Plus de batterie. Ça arrive, c'est comme ça.
Il se régale.
J'ai l'impression que Karine, c'est un peu la Moscato du week-end.
Il est bon, Denis, quand même. Merci encore à Denis, s'il nous écoute, là, pour sa patience, quand même.
Parce oui, que... mais merci pour ses saucisses, quand même.
On s'acharne, quand même. C'est. Voilà.
Oh, ben. Il ne reste plus que ça, ça fait trop longtemps maintenant sa carrière. Hein.
D'accord. Dans un instant, Pierrot, qu'est-ce qu'on fait?
On parle de l'OGC Nice, de Kylian Mbappé, de Didier Deschamps, et puis il y aura une archive légendaire du Kikadi. A tout de suite.